Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Claude Empereur. Merci d'avoir accepté mon invitation, monsieur Empereur.
Merci beaucoup.
Vous êtes énarque, vous êtes haut fonctionnaire, honoraire, vous avez été dirigeant de plusieurs sociétés, mais vous avez aussi fait de la politique chez nous, et c'est pour ça que localement on connaît votre nom. Évidemment, vous faites partie de notre histoire familiale locale. Voilà, vous avez été conseiller régional des Pays de la Loire et vous avez été maire de Pornichet. En attendant, vous êtes comme un satellite, comme un photographe. Le satellite plonge et peut photographier très petit et s'occupe des choses à une échelle très locale. Et puis, il peut aussi monter et faire de la perspective et faire la photographie d'un continent. Eh bien, c'est ce que vous faites parce que aussi bien vous êtes capable de toujours de nous donner les coins de rue de Pornichet, là où il y a eu des travaux et là où on s'est plaint des trous. Et vous êtes aussi capable, et ça c'est l'objet, et ça c'est passionnant, de parler de géopolitique mondiale avec ce livre qui sort chez VA Éditions, Le Nouvel Échiquier, la société internationale après la crise de la Covid-19. Et vous avez publié ce livre, Jean-Claude Empereur, avec Charles Zorbib, qu'on connaît, qu'on a déjà interviewé. Il est recteur honoraire de l'Académie d'Aix-Marseille, agrégé de droit public, professeur honoraire. Il est connu aussi, Charles Zorbib, pour publier régulièrement son sorte d'index géopolitique mondial. Voilà. Alors, on nous a beaucoup dit que depuis le coronavirus, le monde n'est plus le même, que l'Occident finalement a baissé de quelques marches au profit surtout de l'Asie qui en a profité. C'est un peu ce qui ressort de vos travaux, monsieur Empereur.
Alors effectivement, dans ce livre collectif, je rappelle qu'il y a 37 intervenants, c'est un livre effectivement assez lourd. Dans ce livre collectif, nous avons 1000 projecteurs, comme vous le disiez tout à l'heure, sur un certain nombre d'éléments qui laissent penser que la géopolitique mondiale est en train, sinon de basculer, du moins, de se modifier sensiblement. Et le tiers à peu près de cet ouvrage est consacré à un regard sur l'évolution vers l'Asie au sens large. On commence par l'Inde et on termine par le Pacifique. Et c'est effectivement ce qui nous a attiré le plus, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les tensions en mer de Chine méridionale, les tensions entre l'Inde et la Chine, notamment, et le Pakistan du côté du Cachemire, la situation aussi de nos possessions, enfin de notre présence, on l'a vu récemment avec le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, fait que tout cet ensemble doit retenir très fortement notre attention, à la fois sous l'angle purement géopolitique, sous l'angle diplomatique, sous l'angle économique, et aussi, c'est important, c'est traité abondamment dans d'autres chapitres du livre, sous l'angle des hautes technologies.
Avant de revenir sur les principaux enseignements de votre étude, Jean-Claude Empereur, je profite de vous poser cette question parce que vous connaissez notre milieu local, vous avez été maire de Pornichet, je le rappelle, et on m'interpelle parfois, on me fait des reproches, on me dit c'est bien gentil, tu nous parles du monde, de ce qui peut se passer au bout du monde, des grands bouleversements, on s'en fout, tu es local, tu devrais nous parler des accidents au coin de la rue ou des projets du futur boulevard. Vous qui avez ces deux casquettes, évidemment si on parle de tout cela, ça a une influence dans notre vie quotidienne pour les années qui viennent.
Bien sûr.
C'est notre vie, en fait. C'est notre vie locale aussi que de parler.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, à plusieurs niveaux, parce que vous avez raison. Si je reste sur le plan local, les leçons de la grande géopolitique, celle à laquelle vous faites allusion, se retrouvent à une échelle, finalement, miniature. Les relations entre les différentes communes, les communes, le département et la région, sont des relations de type géopolitique. Ce sont des relations de compétition, de coopération, quelquefois de, non pas d'affrontement, mais de débats difficiles, délicats. Et ce qui m'a toujours frappé dans l'expérience que j'ai eue de ces 12 années de mandat, c'est qu'effectivement, il faut savoir se poser et se placer dans des positions de négociation, de compétition, de coopération en permanence. Et c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est le premier niveau de la poupée russe. Et après, toutes les poupées russes s'emboîtent. et jusqu'au niveau planétaire que vous évoquiez tout à l'heure, avec cette dimension nouvelle que nos concitoyens sont en train de percevoir petit à petit, notamment depuis, non seulement depuis les événements récents, mais depuis une vingtaine d'années, c'est que la géopolitique était quelque chose de laissé souvent de côté. On pourra revenir sur ce point. Impacte en réalité notre vie quotidienne.
Elle impacte notre vie quotidienne. On l'a bien vu avec le plein d'essence.
C'est tout à fait évident. Et j'entendais ce matin l'un des leaders de la grande distribution expliquer que, bien entendu, dès le moment où les ports de la mer Noire sont fermés ou seront fermés, eh bien, le blé ukrainien ne viendra plus dans nos boulangeries. Par conséquent, il y a effectivement une des conséquences très fortes de la géopolitique mondiale. Je dis bien la géopolitique mondiale, hein, et pas uniquement de l'Union européenne ou des relations franco-allemandes. C'est l'ensemble de la planète qui se reflète à un moment ou à un autre sur notre table de travail, dans nos armoires ou dans nos assiettes.
On évoque beaucoup cette notion de nouvel ordre mondial, qui signifie finalement un conflit entre ceux qui sont accusés d'être des mondialistes par les souverainistes. Qu'en est-il ? La bataille a-t-elle été perdue par les souverainistes, par les mondialistes ? Est-il trop tôt pour le dire dans cette grande confrontation ? Quel est l'état des forces finalement ?
Écoutez, je ne crois pas. Enfin, je pense qu'effectivement le clivage, vous le dites à juste titre, il se fait entre deux conceptions de la vie politique et de la vie internationale. Les souverainistes d'un côté et les mondialistes de l'autre, pour simplifier. Ce combat n'est pas récent. Lorsque il y a maintenant un peu plus de 20 ans, même plus, nous avons eu à nous affronter sur le traité de Maastricht, on était exactement dans cette situation. Il y avait ceux qui considéraient que le traité était attentatoire à la souveraineté nationale française, ce qu'il était, et puis ceux qui considéraient que l'idée de nation allait se dissoudre, n'était plus du tout d'actualité, que l'avenir était aux grands ensembles, intégrés, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées et le sentiment national, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la défense des intérêts vitaux d'un pays, la défense des intérêts vitaux est quelque chose qui prime sur tout le reste, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas coopérer, etc., etc.
Et est-ce que bien avant ce clivage entre les mondialistes et les souverainistes, il y avait finalement ce clivage, on le retrouvait quand il y avait les deux camps Est-Ouest qui s'affrontaient chez les non-alignés, ce qu'on qualifiait de non-alignés. C'était finalement en quelque sorte les souverainistes d'hier, de l'ancienne époque.
Oui, d'une certaine façon, vous avez raison. C'est vrai, le mouvement qui s'est lancé après Bandung avait ce sens-là. Et aujourd'hui, je dirais qu'une bonne façon de percevoir à la fois une sorte de synthèse entre le souverainisme et le mondialisme, c'est à l'Europe que ça devrait revenir. Parce que c'est elle qui, normalement, et quand je dis l'Europe, je ne parle pas du système européen, je ne parle pas de l'Union européenne, je parle des pays d'Europe, du continent européen, c'est à eux de définir, si vous voulez, c'est de faire cette synthèse, car c'est nécessaire à l'équilibre du monde. Et dans cet ouvrage, Je parle à la fin, c'est jamais bien de se citer, mais je parle à la fin de souveraineté concertée. Si vous voulez. Je ne crois pas, j'ai cru un moment, je confesse que j'ai cru un moment, je ne crois pas à la souveraineté européenne, hein, car la souveraineté européenne implique l'existence d'un État, et donc d'un État fédéral. On est loin de cela et je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais en revanche, on peut se concerter entre souverainetés pour définir quelque chose qui permettrait à l'ensemble des pays d'Europe de se définir dans cette espèce d'évolution de la géopolitique mondiale, qui est tout de même, qu'on le veuille ou non, un cycle de compétition, voire d'affrontement. Et il faut être un acteur majeur, et si on veut être un acteur majeur, il faut se rapprocher les uns des autres, se fédérer, mais conserver notre identité, conserver notre histoire, notre culture, et ne pas la dissoudre dans un ensemble techno-bureaucratique.
Je n'avais pas, Jean-Claude Empereur, cette arrière-pensée en vous posant ces questions précédentes, mais c'est vos réponses qui m'amène à vous poser cette question et à poursuivre ma réflexion. Est-ce que naturellement la France n'a pas sa place d'être une sorte de chef de file des non-alignés du XXIe siècle, en quelque sorte. Ni à l'Est, ni à l'Ouest, ni dans les souverainistes à 100%, ni dans les mondialistes à 100%. Et comme elle a toujours fait historiquement, finalement, ce pont.
Je crois que vous avez tout à fait raison. C'est absolument le nœud du problème. On a le sentiment, quand on dit ça, qu'on a l'impression que la France est un pays exceptionnel. Elle est à certains égards, si vous voulez, de par son histoire, de par sa culture.
Mais elle est.
Et je crois qu'elle a ce rôle à jouer. Et il me semble que dans les débats actuels, on n'ose pas avancer. On n'ose pas avancer cette vision des choses. Et pourtant, c'est celle qui, à mon avis, a le plus d'avenir. Car la France est une sorte de monde en réduction. C'est un monde en réduction, hein. D'une part par sa géographie, par sa position géographique, par les différentes composantes de la nation. N'oublions jamais que c'est l'État qui a créé la nation en France, et c'est l'État qui a rassemblé des entités qui étaient
des
finalement
peuples
des peuples très, très différents, réfractaires comme diraient certains, mais qui se sont associés. Et il y a aussi autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est notre présence ultramarine. Nous sommes le seul pays européen à être présent sur les 5 continents. Nous avons 2,5 millions de concitoyens qui vivent à la fois dans l'Atlantique, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, qui sont dans des points tous très stratégiques. Très stratégiques. On se dit parfois que on se demande à quoi sert notre présence dans les îles éparses, hein, dans le canal de Mozambique. Bien, cette présence, qui ne gêne personne, hein, il n'y a pas d'habitants, il n'y a personne, elle est fondamentale, car c'est une voie maritime importante, qui est une voie de secours en cas de suppression du canal de Suez. C'est aussi une voie au-dessus de gisements d'hydrocarbures, et c'est également un espace au-dessus de grands réseaux de télécommunications sous-marins. Voilà un exemple précis qui fait que notre présence sur la planète, qui est encore une fois sur l'ensemble de la planète, nous sommes le seul à le pouvoir. Donc nous avons la possibilité d'être un initiateur de non-alignement en Europe et un exemple pour l'Europe, mais aussi un initiateur de non-alignement sur l'ensemble de la planète.
Dans votre livre, il y a un point qui m'inquiète finalement, parce que ça fait partie de cette réflexion que l'on voit se développer depuis quelque temps, c'est la puissance de ces GAFA ou de ces GAFAM qui ont une telle puissance qu'elles deviennent presque des mini-États. Leur budget, leur compte en banque est parfois supérieur à celle de certains États. Elles n'ont même pas besoin de lever la moindre armée pour faire une révolution dans un pays qu'elles n'aiment pas. Elles manipulent l'information, elles peuvent faire aussi basculer les opinions publiques. Est-ce qu'on n'a pas laissé s'installer des nouveaux États que l'on ne contrôle plus ?
Alors, c'est d'une certaine manière de nouveaux États, mais ce n'est pas non plus totalement
ils ne sont pas à l'ONU,
des nouveaux États.
On n'a pas Apple qui a un siège à l'ONU.
Voilà, et Dieu merci, ils n'ont pas encore de drones ou d'engins balistiques à leur disposition.
Ils ont les moyens de le faire.
Pour le moment. Alors, c'est une question fondamentale, parce que non seulement il y a les GAFAM, c'est-à-dire le côté américain, hein, et puis il y a les BATX, j'entre pas sur le sigle BATX, c'est les Chinois. C'est la même chose. Hein, et les Européens sont totalement démunis. Je dis bien totalement démunis. Et malheureusement, dans cette affaire que j'ai eu l'occasion de suivre professionnellement il y a d'assez longues années, de très près, malheureusement, nous avons laissé échapper dans les années 70, on a laissé échapper la possibilité d'être dans ce jeu. Nous n'y sommes pas, nous en sommes exclus. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Nous en sommes exclus, on est dans une situation de totale vassalisation à l'heure actuelle vis-à-vis des GAFAM.
De Microsoft,
bien sûr, et peut-être demain aussi de l'équivalent chinois qu'on appelle les BATX pour Alibaba, Tencent, etc. Or, la responsabilité des Européens et des Français est complète dans cette affaire. Je suis malheureusement obligé de dire que les choses ont basculé au moment de l'élection du président Giscard d'Estaing qui a cassé le système. Nous avions à l'époque, il faut le rappeler, un livre vient de sortir, c'est Vers Éditions, écrit par mon ami Maurice Allègre sur ce problème, qui acte la situation cette époque.
Sur on le plan mathématique, le plan calcul, c'est ça?
Ah oui, mais ce n'était pas le plan mathématique.
Le plan calcul.
Le plan calcul était l'idée développée par le général de Gaulle, poursuivie par Georges Pompidou, qui consistait à créer une industrie européenne de l'informatique, aussi bien pour le calcul que pour la gestion. Le plan calcul, c'est une expression, je m'excuse, journalistique. Mais le véritable nom, c'était une industrie européenne de l'informatique. Nous avions créé...
Oui, parce que le plan calcul, c'est un peu bébête. Ça veut dire on va apprendre à faire des mathématiques.
Oui, mais ça, c'était c'est un mot valise qui n'a pas de sens. Mais nous avions créé en 1974, c'est important qu'on se rappelle ça, si vous voulez, parce que toutes nos difficultés... aujourd'hui dans ce domaine viennent de là, on avait créé une entreprise qu'on a oubliée qui s'appelle Unidata, qui était une entreprise qui associait les industriels français, la Compagnie Générale d'Électricité, Thomson, Siemens et Philips. Ceci a été arrêté brutalement par Giscard d'Estaing. Je ne mets pas en cause quoi que ce soit, il n'a pas eu la vision du futur qui s'imposait, et à partir de ce moment-là, nous avons été exclus du jeu. Et je précise que si nous avions développé Unidata, si cette affaire n'avait pas été arrêtée, nous aurions aujourd'hui l'équivalent d'Ariane ou d'Airbus dans le domaine informatique. C'est donc une...
Donc à Microsoft.
Oui, mais Microsoft, Windows, ce que vous voulez. C'est une catastrophe technologique et géopolitique majeure, dont on n'a pas bien pris conscience, mais dont nous supportons aujourd'hui les conséquences. Alors, rien n'est jamais perdu dans l'histoire et surtout dans la technologie. J'ai vu avec beaucoup d'intérêt ce matin dans un article de la presse qu'une toute petite société française, une start-up, hein, c'est pas la start-up nationale, hein, c'est une start-up de deux personnes, était arrivée à des résultats sur ce qu'on appelle l'informatique quantique, c'est-à-dire un saut technologique considérable, était arrivée à des résultats que personne n'avait atteint aujourd'hui, ni en Chine, ni aux États-Unis. Donc ça, c'est du tout neuf, du tout frais. Je m'en réjouis beaucoup parce qu'on ne pourra se sortir de cette situation que si on fait un saut technologique complet. Et à partir de ce moment-là, la marche en avant peut être prise. Au passage, et je m'arrêterai là, je rappelle que nous avions aussi inventé l'Internet. Il faut savoir que M. Pouzin, hein, que je connais bien, que j'ai bien connu depuis longtemps, M. Pouzin s'est vu remettre par la reine d'Angleterre à la Société Royale Britannique, hein, la médaille d'or, la reine lui disant « Nous vous remettons cette médaille à vous, M. Pouzin, qui êtes l'inventeur d'Internet. »
Je sais, c'était un ingénieur français aussi qui s'appelait Christian Huitema, qui est à l'origine de tout cela. Et c'était le premier réseau, l'ARPA ou l'ARPANET.
Ah, ça, c'est le réseau américain.
Le réseau américain, mais nous, on a inventé le protocole. Le protocole...
De la commutation par paquet, ce qu'on appelle la commutation par paquet.
Voilà.
Eh bien, pour que la reine d'Angleterre félicite un ingénieur français pour lui dire qu'il est à l'origine d'Internet, il faut tout de même le faire. Hein, c'est une référence. Et Louis Pouzin vit toujours et continue à développer une nouvelle version d'Internet parce qu'il estime que le réseau actuel est à bout de souffle.
D'accord.
Donc, ceci pour vous dire que tout n'est pas perdu, mais il faut une volonté politique et des moyens financiers colossaux.
Oui, mais cette volonté politique, alors ça c'est génial que vous me posiez cette question sur la
voie. J'ai l'impression que tout le politique...
Non, mais que vous abordiez cette question, cher Jean-Claude Empereur. On n'a plus de volonté politique, on est à court terme. Vous évoquez la crise de la Covid-19, on a des gouvernants qui paradent sur les plateaux de télévision pour dire on a tout très bien fait.
Non.
Et si tu n'es pas content, c'est que tu es un complotiste d'extrême droite. Oui. Bon, ça c'est preuve. Fermez le banc. Article 1. 2. On a des gens qui regardent à court terme, qui vous disent les programmes présidentiels aujourd'hui, c'est pour régler les pensions alimentaires des femmes battues. Bien sûr que c'est un problème important, grave, pas à minimiser, mais on est loin de l'époque de Colbert qui disait on va faire pousser des forêts sur 100 ans pour avoir des bateaux, avoir assez de bois pour faire des bateaux dans un siècle.
Alors, c'est tout à fait exact. Il y a deux choses qui manquent et qui vont de pair. La volonté politique et aussi la vision de long terme.
Voilà.
Il y a dans cet ouvrage deux articles qui traitent de ce sujet, notamment de mon ami Paul Dahan, qui est un diplomate, qui explique qu'on a perdu le sens du long terme. Mmh. On l'a perdu complètement.
Parce que les élections, c'est tous les 5 ans.
Voilà. Et on a en plus l'impression que les candidats à la présidentielle sont plutôt candidats à un poste de Premier ministre que de chef de l'État. C'est très, très frappant.
Et parfois même de conseiller général.
Ah, oui, oui.
On va faire des pistes cyclables.
Voilà, voilà. Un peu aussi. Alors qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'énergie, qui est vital, hein, les grands problèmes à l'heure actuelle, c'est l'alimentation, oui, l'énergie, la défense. Dans tous les cas, il faut une vision au moins à 25 ans, plutôt à 50, voire à 100 ans. Et ça, effectivement, nous l'avons perdu. Et nos concitoyens ne se rendent pas compte que c'est ça le fond du problème. Et c'est ça qu'il faut essayer d'inculquer, mais de l'inculquer dès l'enseignement, dès le secondaire. Et effectivement, pour que ça arrive à un résultat, bah, ça prend déjà en soi une vingtaine d'années. Donc on est encore loin du port, mais depuis, disons, 40 ans, on a abandonné l'idée de long terme, on a abandonné l'idée aussi de volonté politique et un peu aussi de sens de l'État, hélas. L'un des derniers ouvrages qui vient de sortir sur la Chine, je cite le terme en anglais puisque cet ouvrage n'a pas été traduit, c'est The Long Game, le jeu long. Les Chinois savent que ils ont le temps devant eux, comme ils disent
souvent. C'est comme les Arabes finalement,
oui,
c'est comme les Orientaux.
C'est-à-dire,
ils sont jamais pressés.
C'est-à-dire, vous avez la montre, mais nous avons le temps.
Ah oui, très belle. Merci de nous rappeler cette phrase, Jean-Claude Empereur. Votre livre est passionnant, ça s'appelle « Le nouvel échiquier, la société internationale après la crise de la Covid-19 » par Jean-Claude Empereur et Charles Zorbib. C'est publié chez VA Éditions. Jean-Claude Empereur, je rappelle que vous êtes énarque, vous avez été dirigeant de plusieurs sociétés, vous avez été aussi le maire de Pornichet à une certaine époque. On nous explique en France que les leçons de la crise ont été retenues. Donc on nous parle de reconquérir la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, le ceci. On emploie des mots comme résilience, c'est le mot très à la mode en ce moment. J'ai été obligé d'aller chercher dans le dictionnaire ce que ça voulait dire et j'ai découvert résilience, c'était tiré à un élastique. Donc je n'ai pas encore compris ce que ça voulait dire. Parce qu'en fait, ils emploient des termes qui sont très à la mode sur LinkedIn et sur Facebook, donc ça fait brancher. Donc parce qu'on a peur de dire souveraineté, quoi, en fait.
Ah oui, oui.
C'est ça, en fait.
Souveraineté, indépendance, puissance sont des mots qui font
tabou.
Peur. Ah, pardon,
donc
pas...
on dit résilience, ça voilà. Fait mieux, ça oui. Fait plus chic.
Et on dit aussi gouvernance, au lieu de gouvernement. Ça n'a rien à voir. La gouvernance, c'est de la gestion. Hein. Le gouvernement, c'est de la politique. Ce sont deux choses totalement différentes. Le Premier ministre, c'est un chef de gouvernement, ce n'est pas un chef de gouvernance. Et le chef d'État, encore moins. Mais ça, c'est très important. Les mots sont fondamentaux, absolument fondamentaux.
Oui, mais comme on ne comprend plus les mots, on n'arrive plus à...
Bah, grâce à vous, on va les comprendre.
Ah non, grâce à vous aussi, parce que c'est vous qui nous remettez aussi les pieds sur terre. Alors, je vais revenir. Donc, on nous parle de cette autonomie. Est-ce que dans 5 ans, on ne risque pas de refaire le même constat et rien n'avancera? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une prise de conscience maintenant? On veut bien faire, quoi.
Oui, enfin, je crains que vous ayez raison. Mais
vous haussez les épaules, raison. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais moi je vous le dis, vous haussez les épaules.
Je crains qu'on n'ait pas encore totalement compris. Mais ce sont les crises qui éventuellement font avancer les choses. Alors vous me direz, on vient d'en subir deux, ça ne suffit peut-être pas. Ça ne suffit peut-être pas pour qu'on comprenne vraiment.
Un virus et une guerre, ça ne suffit pas.
Donc, je plaisante un peu, mais je pense que les choses évoluent. Hein. De ce côté-là, j'en suis convaincu, mais il faudrait qu'elles évoluent vite, parce que le lancement des grands programmes que nous évoquions, notamment sur les trois domaines de l'alimentation, de l'énergie et de la défense, sont encore une fois des programmes minimum 25 ans. Un système d'armes, par exemple, il y a un débat sur lequel moi je suis très attentif à l'heure actuelle, c'est celui du système de combat aérien du futur, le SCAF, que nous devons faire avec nos amis allemands. Ça fait des mois que les choses ne semblent pas avancer beaucoup, or ce système de défense aérien est un élément fondamental de la défense de l'Europe et de la France, et un élément fondamental de notre souveraineté. Et dans ce domaine-là, il faut bien voir qu'on travaille sur une échéance qui est d'environ 50 à 80 ans. Le dernier SCAF, à supposer qu'on le fasse voler l'année prochaine, hein, il volera encore à la fin du siècle. Je viens de voir que nos amis allemands viennent de commander le F-35 pour équiper leurs armées.
Bel exemple de solidarité.
Ça m'inquiète un petit peu tout de même, parce que c'est pratiquement, je ne vois pas comment on peut concilier à la fois la participation à un projet comme le SCAF, qui est un projet de F-35, et acquérir sur étagère...
Des avions chez les Américains. Voilà. C'est pour ça que je dis, avec ironie, bel exemple de solidarité.
Voilà, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et bon, là, il faut faire attention à ce que l'on dit, parce qu'il faut examiner les choses de près. Mais il y a tout de même une certaine contradiction. Ça fait déjà des mois qu'on devrait avancer sur ce système, et on piétine. Et pendant ce temps-là, on achète sur étagère, parce que brusquement, survient la crise en Ukraine. Encore une fois, je n'ai pas tous les éléments du dossier, loin de là. Je me garderai d'avoir une position définitive, mais je suis tout de même un petit peu perplexe. Un tout petit peu perplexe. Et car la position américaine dans le domaine de ce qu'on appelle la souveraineté technologique, aujourd'hui, elle est extrêmement simple. Elle l'a toujours été. On va faire un peu pédant en utilisant le terme anglo-saxon, mais il n'utilise que des mots de racine française. Full spectrum dominance. La domination sur la totalité du spectre des technologies, quelles qu'elles soient. Depuis le vaccin, on l'a bien vu, jusqu'au système de défense, en passant par l'alimentation des hommes. Et cette position américaine, que je ne critique pas, hein, en géopolitique, il ne s'agit pas de faire du compassionnel ou de la morale. Les choses sont ce qu'elles sont. Eh bien, cette position est non négociable. Hein. Donc il faut maintenant se dire prendre tout ce problème à bras le corps. Hein, et en matière de défense, la défense européenne est à l'heure. En revanche, le fait que les principales puissances européennes, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, aient des armées puissantes et des systèmes de défense puissants et qui puissent les faire travailler éventuellement de conserve, ça c'est une réalité, c'est une chose. Mais ne rêvons pas à quelque chose qui n'existe pas. La défense européenne, c'est pour le moment l'OTAN, et tant qu'on ne s'est pas dégagé, si vous voulez, de cette emprise, on n'arrivera à rien.
Dégagé de cette emprise ?
Oui, je pense qu'il faut distinguer, comme on dit, l'alliance de
l'Atlantique,
de l'organisation intégrée. Hein, l'alliance, c'est un traité de solidarité mutuelle. L'organisation intégrée, c'est un système de commandement qui est en fait un commandement intégré américain. Je rappelle que quand Jacques Chirac avait demandé timidement, pas trop timidement tout de même, d'avoir le commandement sud de l'OTAN en Europe, en Méditerranée, oui, ce qui tout de même était la moindre des choses, on l'a renvoyé dans ses buts. Hein. On l'a renvoyé dans ses buts. Donc il faut avoir une défense avec des alliés, comme on fait traditionnellement dans l'histoire, mais il faut construire une défense qui soit une défense autonome, et en tout cas en ce qui concerne la défense européenne, il suffit de voir les déclarations de nos amis allemands, c'est net et sans bavure. Hein, Madame Kramp-Karrenbauer a dit, après le discours du président Macron, qu'elle n'en voulait pas, hein, et Monsieur Scholz a dit, tout le monde semble s'en réjouir, que les Allemands, parce qu'ils avaient les moyens, allaient mettre 100 milliards de crédit en faveur de leur défense, là, instantanément. 100 milliards, c'est plus de deux fois le budget de la défense nationale française.
Il y a un point très intéressant. Je vais rebondir sur ce que vous m'avez dit sur l'Allemagne qui achète les F-35, Chirac renvoyé dans ses buts quand il voulait avoir une part de commandement sur notre zone naturelle d'influence méditerranéenne. Il y a aussi un point aussi sur l'alignement. Les États-Unis, c'est relevé par l'un de vos intervenants dans le livre, les États-Unis font payer très cher à la France chaque fois que la France a un ultime sursaut gaullien d'indépendance, référence à l'Irak. Alors moi, ce que j'observe, c'est que quand la France a un sursaut gaullien d'indépendance, les États-Unis donnent des coups de bâton à la France.
Oui.
Et quand la France est toutou allié aux États-Unis, on n'a rien. On a des sucres, parce que quand on est toutou, nos alliés vont quand même acheter des avions chez les Américains, les sous-marins, les Australiens, on nous grille le truc. Donc finalement, on n'a rien à gagner à rester toutou.
Ah, sûrement pas. Sûrement pas, mais encore faut-il qu'il y ait des responsables politiques qui l'expliquent.
D'accord.
Ah oui, tout à fait, bien sûr. Ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire que
qu'il faut mordre.
Oui, et ça ne veut pas dire que les Américains sont des ennemis, nos adversaires, ce sont des partenaires.
Mais j'ai jamais dit ça, vous l'avez compris.
Bien sûr, mais il n'y a aucune raison de ne pas faire notre effort nous-mêmes. Ceci d'autant plus qu'on vous dira toujours, bah oui, mais ça coûte de l'argent, on n'a plus l'argent. Je vais vous donner un chiffre que j'ai vu récemment dans un article, une analyse que je considère comme sérieuse. Le coût de branchement des parcs éoliens que l'on construit à l'heure actuelle en France, le coût de branchement au réseau de distribution électrique normal, c'est sur une période de plusieurs années, mais pas très longue tout de même, environ 100 milliards d'euros. Vous vous rendez compte ? 100 milliards d'euros. Le branchement, c'est-à-dire, je ne vais pas simplifier, mais mettre la prise de courant.
Oui, oui.
Ben, 100 milliards d'euros, vous vous rendez compte ce que ça représente ? Ce que ça représente si ces 100 milliards étaient affectés à d'autres choses, si vous voulez, ou notamment à ces problèmes de défense, d'énergie qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, dans une campagne comme celle que nous vivons aujourd'hui, moi je trouverais très intéressant qu'on discute de ces grandes masses. C'est ça qui est important. Hein, quitte à les critiquer, quitte à dire que tel ou tel chiffre est excessif ou pas, c'est ça qui serait intéressant, plutôt qu'effectivement avoir des discussions de conseil général ou de conseil départemental, ce qui par ailleurs est tout à fait honorable et estimable, mais ce n'est pas le même niveau. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont complètement laissées de côté dans la vie politique française, et malheureusement les occasions comme celles que nous vivons aujourd'hui ne sont jamais saisies. D'où mon pessimisme et dans ma réponse à votre question tout à l'heure, est-ce que ça sera mieux dans 5 ans ? Ben, tout de même, il faut espérer, hein, il faut l'espérer. Mais ce n'est pas absolument certain. Nous comprenons.
C'est comme un cap. Le bateau a pris un mauvais cap. On voit au bout de 5 ans, on se retourne. Il a explosé un truc sur des rochers. Le courant l'a dévié. Il y a des gens qui sont morts de maladie. Mais le commandant dit on va continuer sur le même cap pendant 5 ans.
Oui.
Donc, je ne sais pas si... Ben c'est mon image est bonne. Quoi.
Si, elle est bonne, mais voilà. Il ne faudrait pas que votre image.
Après Notre-Dame qui brûle, il y a la Tour Eiffel qui va s'effondrer. Oui. ou bien Versailles. Bon, c'était une pointe du monde. Mais c'est bien ça, de rire de temps en temps. C'est bon pour la santé, paraît-il. Ah, oui. Voilà, Jean-Claude Empereur. Ben, en tout cas, j'invite les auditeurs à lire votre livre, hein, Se le procurer, parce que là, combien de temps ça vous a demandé ?
Bout en bout, 18 mois. 18 mois. Mon épouse en était témoin pendant les vacances. Là,
elle est contente quand ça s'arrête.
J'ai passé beaucoup de temps. Alors, maintenant, certains nous disent, mais écoutez, il y a une nouvelle crise. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Il faut faire le tome 2.
Pourquoi vous ne feriez pas le tome 2 ? Mais il faut attendre que la crise actuelle se termine.
Voilà.
Résolue.
Le nouvel échiquier, la société internationale après la crise de la Covid-19, c'est le nouveau livre de Jean-Claude Empereur avec Charles Orgby. Merci de nous en avoir parlé, monsieur Empereur. Je rappelle que vous êtes énarque, vous êtes ancien dirigeant de société, ancien haut fonctionnaire, et vous avez été aussi maire de Pornichet. Voilà, pour l'anecdote locale. Vous continuez de suivre ce qui se passe à Pornichet ?
Oui, je continue de suivre ce qui se passe à Pornichet, ça m'intéresse toujours, mais j'ai pris le parti de ne jamais intervenir, si vous voulez, dans le déroulement des choses. J'ai de très bonnes relations avec Jean-Claude Pelletier.
Les travaux, comment vous les voyez ? Ça avance sur le bord de mer ?
Je crois que c'est une nécessité, il faut refaire ce que je continue à appeler le remblai, parce que c'est un terme qui est historique. Mais c'est, je pense, tout à fait nécessaire, ainsi que ce qui se fait sur la place du marché et ce qui s'est déjà fait à Pornichet.
Merci Jean-Claude Empereur.